Le mystère qui entoure depuis plusieurs mois le nom d'Ernesto Che Guevara est-il aujourd'hui éclairci? Depuis le mois d'octobre 1965, l'ancien ministre cubain de l'industrie, l'un des adjoints les plus prestigieux de Fidel Castro depuis les combats lointains de la Sierra Maestra, a disparu. Fidel Castro s'est contenté d'annoncer que Che Guevara avait renoncé à la nationalité cubaine et qu'il avait quitté Cuba pour lutter ailleurs contre l'impérialisme.
Sa politique a cette dimension éthique très forte. Et l'internationalisme aussi. Bon, il y a une phrase où il dit, bon, c'est quoi le révolutionnaire authentique? C'est celui qui sent comme une agression personnelle toute agression à une personne dans le monde, où que ce soit dans le monde. Hein?
Propos étonnant, peu convaincant pour certains qui ont cru à sa mort. Or, un journaliste italien vient d'affirmer dans un article qui a fait sensation qu'il avait rencontré récemment Che Guevara dans un lointain village des montagnes péruviennes où le révolutionnaire cubain s'employait à coordonner la lutte de guérilleros sud-américains d'extrême gauche. Notre correspondant permanent à Rome, Jean Piazza, a pu s'entretenir avec notre confrère italien de ces surprenantes révélations.
Paolo Senise, il faut que je vous pose la première question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'était Guevara? Vous le connaissiez suffisamment pour le reconnaître sans le moindre doute? Vous savez qu'il y a quelques jours seulement, un journal de Rome a écrit que probablement Guevara était mort.
Il y a beaucoup de temps qu'on écrit ces choses. Mais Guevara, c'est un personnage facilement reconnaissable, surtout par un journaliste qui s'occupe, comme moi, de beaucoup de temps des questions sud-américaines.
Mais de quels moyens dispose Guevara? Il a des fidèles, comme on dit, mais est-ce que ce sont des troupes armées?
Naturellement, ce ne sont pas des troupes régulières. Ils sont des hommes armés. Et les guerriers que j'ai vus sont bien armés. Ils sont armés de mitraillettes et de longues couteaux. Je crois qu'ils sont bien entraînés à la guerre des partisans.
Est-ce que, je puis vous demander une dernière chose, quelle impression vous a fait personnellement Guevara? Est-ce que c'est un chef de guerre? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un aventurier ou simplement un illuminé?
Oui. La seule chose que j'ai compris, c'est que Guevara a la stature d'un chef révolutionnaire. Mais comme vous savez, sur la nature de cet homme-là, l'histoire même n'a jamais porté un jugement exact.
Le message de Che Guevara, 40 années plus tard, contient un noyau incandescent qui continue à brûler. Quelque chose dans la vie et le message du médecin guerriero argentino-cubain parle encore aux générations d'aujourd'hui. Sinon, comment expliquer cette pléthore d'ouvrages, d'articles, de films et de débats? Ce n'est pas un simple effet commémoratif du 40e anniversaire. Qui s'intéressait en 2003 au 50e anniversaire de la mort de Joseph Staline? Voilà, ça c'est vraiment un propos de trotskiste qui se venge, qui en profite pour se venger. Olivier Besancenot, bonjour.
Bonjour.
Michael Levy, bonjour.
Bonjour.
Comment on va dire Levy, oui.
Comme vous voulez.
Bon, le oui, on va dire. Et voilà, vous avez commis tous les deux ce livre sur Che Guevara. Une braise qui brûle encore. Pourquoi, Olivier Besancenot, se lancer là-dedans?
Parce que c'était un vieux projet, en fait. Moi, dans mes premiers pas du militantisme, quand j'ai rencontré la LCR, j'ai trouvé des militants et des militantes qui m'ont fait découvrir Che Guevara, pour qui j'avais, je dirais, une sympathie instinctive, comme ça, comme pas mal de jeunes. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Et à l'époque, on m'a fait lire un livre d'un certain Michael Lowy, qui avait été à l'époque édité dans les années 70, sur la pensée politique du Che, pas sur sa bio, pas sur sa vie, mais sur sa pensée politique, philosophique, qui m'a parlé, voilà, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait cette espèce de Robin des Bois rouges qui finalement avait fait beaucoup plus que ça, qui avait cherché à réfléchir à un socialisme un petit peu différent que ce qu'avait pu être celui de l'Est, et qu'on ne pouvait pas suspecter de près ou de loin d'avoir participé en effet au bilan du stalinisme. Et du coup, ce livre de Michael m'a donné envie de lire le Che lui-même. Et comme ça faisait un petit bout de temps, j'ai été voir Michael et je lui ai dit, écoute, 40 ans après, ce serait pas mal de refaire un peu le même livre, un peu plus actualisé, et voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui dans la période dans laquelle on est. Après la chute du mur de Berlin, après ce capitalisme qui a été présenté comme l'horizon indépassable de l'histoire, et toute cette nouvelle résistance auquel on a assisté.
Alors, Michael Levy, vous êtes directeur de recherche émérite. On se cache sous la table, on est intimidé au CNRS. Vous êtes branché sur cette histoire depuis longtemps, sur l'histoire du marxisme en Amérique latine notamment. Comment vous avez travaillé tous les deux?
Tout simplement, on s'est divisé un peu le travail. Bon, on a fait une espèce de table de matière provisoire. On s'est partagé un peu le chapitre. On s'est mêlé chacun du chapitre de l'autre. On a dit pourquoi pas ça et plutôt qu'autre chose, etc. On s'est corrigé la copie mutuellement. Ensuite, on a un peu brassé nos textes. On a copié d'un morceau, on a collé ailleurs, on a coupé, collé, mélangé. Finalement, c'est devenu vraiment un travail commun.
Comment vous expliquez que le Che, effectivement, est toujours là sur les t-shirts, sur les tasses à café, sur les posters? Non, mais il est partout, quoi. Oui. Et c'est vrai que Staline a disparu, ça c'est clair. Il n'est plus dans les chambres à coucher des jeunes gens.
D'abord pour ça, parce qu'en effet, une fois de plus, on peut pas le comparer à ce qu'était là-bas. Et je crois que dans ceux qui ont soif de liberté, d'égalité, d'autres choses que la société de merde actuelle, il y en a qui essayent de se référer à ce à quoi on peut essayer de se référer. Et là-dedans, je crois que le Che, malgré toutes les tentatives qui sont faites aujourd'hui, il y a quand même un casier judiciaire qui est plutôt vierge. Et c'est quand même pas rien. Et puis deuxièmement, parce que je crois que quand on se penche un petit peu plus sur le sujet, au-delà des tasses de café et des t-shirts, je crois que c'est un personnage assez paradoxal, parce que il y a d'autres figures de la Révolution qui ont probablement une pensée politique plus aboutie, plus terminée, plus achevée sur un certain nombre de sujets, ce qui n'est pas le cas du Che. Et je crois que c'est ça, finalement, qui parle le plus. C'est que le Che avait une vision du marxisme qui n'était absolument pas dogmatique, qui était ouvert à la confrontation, en quête perpétuelle. Et aujourd'hui, on est en quête de solutions nouvelles, on est dans une situation de refondation pour trouver ce qui pourrait être le socialisme du 21e siècle. Il y a une partie du mouvement altermondialiste qui réfléchit à ça. Il y a ce qui se passe en Amérique latine, il y a Chavez qui dit qu'ils veulent faire, il y a les zapatistes au Mexique qui disent qu'ils veulent aussi réfléchir à ça. Et comme on est dans cette phase-là, je dirais on est dans cette même phase de réflexion. Voilà, et je crois que c'est ça qui parle grand public. Et puis peut-être aussi à des cercles plus politisés, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est les anniversaires. Hein. On a fait une série, nous, de reportages et d'émissions il y a 10 ans, pour le 30e anniversaire. J'ai pas l'impression que la polémique était... Je suis même sûr que la polémique n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Alors, il y a ce livre de Jacob Machevert qui vient de sortir, et qui est exactement le contraire du vôtre, qui descend, qui démolit Che Guevara, et qui en fait un assassin sanguinaire, une brute fasciste. Et or, ce courant critique, disons, si on peut appeler ça comme ça, existe depuis longtemps. C'est presque aussi vieux que la révolution cubaine. Mais là, ça a pris une ampleur toute particulière, et on voit une presse, on en parlait tout à l'heure, de Gala à l'Express, qui charge la barque du Che. Comment expliquer ça, Michael?
Bien, effectivement, l'image du Che, paradoxalement, elle est encore plus prenante dans ce début du XXIe siècle qu'il y a 10 ans. Hein. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Apparemment, il y a quelque chose dans son message, sa vie, qui attire encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Qui dérange plus.
Bon, il y a eu d'autres éléments. Il y a eu le film de Walter Salles sur le journal de voyage en motocyclette, qui a rendu l'image du Che aussi très populaire. Bon, tout ça fait que les adversaires ont envie de tabasser, essayer de contrecarrer cette image du Che. Mais bon, un livre comme celui de Machevert, c'est pas, disons, il ne se situe pas sur le même terrain que nous, parce que nous, on essaie de voir quelle était la pensée du Che, quelle était sa réflexion sur le problème du socialisme, etc. Bon, lui, il se concentre sur des détails, disons, psychologiques, biographiques, entre guillemets, etc.
C'est d'ailleurs marrant de voir que le procès, en fait, lui est fait à partir d'une bio sur soi-disant face cachée, plutôt que de lui faire le procès sur ses idées. Ce qui est d'ailleurs étrange, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas sur le même terrain, en effet, du livre. Nous, c'est pas une biographie, et puis nous, on se dit qu'il faut faire confiance à l'intelligence humaine. Donc ceux qui ont envie d'avoir une idée de ce qu'était vraiment la vie du Che, il y a des tas d'autres biographies qui ont été faites par Calfon, par Cormier, qui ont été faites par Taïbodos, évidemment, qui permettent de voir qui était vraiment Che Guevara. Mais je pense que discréditer le Che, ce qu'on essaie de mettre dans le livre, c'est soit d'en faire un bourreau sanguinaire, soit aussi d'en faire un super-héros. Et il était ni l'un ni l'autre, c'était un militant, une figure de la Révolution, qui est un militant donc avec ses forces, ses faiblesses, sa part d'ombre, qui n'en a pas. Nous, on a essayé de puiser dans sa pensée politique aussi un regard critique pour voir ce qu'on pourrait en garder aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est finalement le plus important pour nous, quoi. C'est pas faire l'apologie, parce que je crois que ça servirait pas à grand chose, mais c'est de voir qu'il y a quelque chose qui dérange, en effet. Je crois que la popularité du Che aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire après finalement le soulèvement zapatiste en 1994, après le mouvement altermondialiste, après cette effervescence qu'il y a actuellement en Amérique latine, la popularité du Che, visiblement, est encore plus subversive aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et du coup, bah, il y a des gens qui veulent le tuer une deuxième fois, je pense, politiquement, idéologiquement, vraiment, parce que c'est gênant de, qu'il y ait encore une figure de la révolution qui soit populaire, quoi.
Interactualité.
Voici Interactualité présenté par Jean-Pierre Elkabbach.
Che Guevara est-il mort ? On l'annonce périodiquement, mais chaque fois régulièrement, la nouvelle est démentie, Jean-Pierre Sicre.
Oui, ce soir en tout cas, La Paz annonce que 3 guérilleros ont été tués dimanche dans une province du sud-est de la Bolivie. Les militaires boliviens ont laissé entendre que Che Guevara serait parmi eux.
Voilà un homme qui, depuis 1965, époque à laquelle il a disparu de la vie publique, voilà un homme qui a été signalé en Chine, au Vietnam, au Brésil, en Argentine, et même chez les rebelles du Congo. Il est mort à Saint-Domingue, il est mort en Colombie, il est mort en Bolivie. Une commission d'experts de la CIA américaine et du gouvernement bolivien s'est rendue sur place. Et le mystère, le doute, ne devrait pas pouvoir durer longtemps.
Alors, il faut le réinscrire, évidemment, dans son époque. Il a essayé de changer le temps, l'histoire. Mais il est produit par une époque. Et cette époque, Michael, est-ce qu'on peut l'évoquer ? C'est l'époque de la guerre froide. Il y a un espace dans lequel il évolue, qui est l'Amérique latine, même si il essaye d'être planétaire, même s'il essaye de penser l'international, etc. Mais enfin, c'est quand même un animal de l'Amérique latine. Et puis, il y a aussi le contexte de l'escalade impérialiste au Vietnam. Voilà des éléments qui sont particuliers. Est-ce qu'on peut essayer d'évoquer et la vie du Che, mort à 39 ans, mort en beauté, et le contexte, l'époque ?
Oui. Il y a quelque chose dans la vie du Che qui frappe l'imagination des gens. C'était quelqu'un qui avait, par sa participation dans un mouvement révolutionnaire, dans un autre pays qui n'était pas les siens. Hein. C'était par générosité internationaliste, disons, qu'il s'était engagé, lui, médecin argentin, avec le Cubain. Mais quelqu'un qui arrive à la présidence de la banque cubaine, révolutionnaire, après au ministère de l'Industrie, et un beau jour, il s'est dit, bon, il y a des choses plus importantes à faire, et il répare pour un nouveau combat révolutionnaire ailleurs, bon, d'abord le Congo, ensuite surtout la Bolivie. Donc, cette idée que le pouvoir, ce n'est pas tout. Bon, le pouvoir, c'est important, mais il y a autre chose, peut-être plus importante, qui est cette idée de continuer la révolution, de l'étendre, et notamment cette idée qu'il faut essayer d'aider le peuple vietnamien abandonné, seul, face à cette terrible agression impérialiste. Donc l'idée qu'il faut ouvrir de nouveaux fronts, qui est la seule façon de porter aide au peuple vietnamien. Bon, je pense que pour la génération du Che, pour la mienne aussi, cette guerre du Vietnam a été quand même quelque chose d'essentiel. Mm-hmm. Un peu comme la guerre d'Espagne pour la génération antérieure. Voilà, maintenant il y a le contexte latino-américain, évidemment, qui est déjà, le contexte d'abord d'affrontements sociaux de plus en plus violents, et déjà le tournant vers les dictatures, qui commence au Brésil, ensuite la Bolivie, après on aura le Chili, l'Argentine. Bon, et donc se pose la question d'une façon tout à fait urgente de la résistance contre la dictature, donc la légitimité de la résistance armée contre la dictature. Et le Che le dit clairement, là où il existe encore de la démocratie, là où encore on peut participer à des élections par exemple, on ne va pas lancer la guérilla, ça n'a pas de sens. Hein. Mais dans la plupart des pays, c'était déjà les dictatures, c'était donc la question de la résistance qui se posait.
Et donc de la violence. Tout ce que vous nous dites là, que ce soit la guerre du Vietnam, que ce soit ces dictatures qui sont en train de s'installer en Amérique latine, que ce soit ce qui est au-dessus de ces dictatures, c'est-à-dire les États-Unis. N'oublions jamais que cette Amérique latine est l'arrière-cour des États-Unis. Et puis la guerre froide. Tout ça, c'est un contexte extrêmement violent et d'une violence particulière. Parce qu'on va évidemment parler de la violence du Duce, ce dont parle Macover, mais il faut quand même pas oublier le contexte de violence générale de l'époque.
C'est ça, exactement.
Parce que si on oublie le contexte, évidemment, on ne comprend rien à ce qui peuvent être un certain nombre de déclarations du Duce, d'ailleurs qu'on n'a absolument pas caché dans le livre, sur la haine. Je veux dire, le Duce, par exemple, pensait que l'individu, la personnalité, était un élément fondamental pour une quelconque transformation sociale. Et lui, comme Frantz Fanon, par exemple, dans un autre domaine, antillais qui a participé à la libération algérienne, était pour prendre l'espèce humaine avec toute sa gamme de sentiments, de l'amour, dont parle le Duce, jusqu'à la haine. Et l'idée, c'est de prendre l'espèce humaine telle qu'elle est pour essayer de voir comment, dans une société différente, on pourra aboutir aussi à l'épanouissement individuel. Parce que quelque chose de fort dans l'idée du Duce, c'est aussi de rompre avec une vision un peu caricaturale qui était portée par le socialisme réellement existant, qui est évidemment une vision collectiviste caricaturale qui niait finalement la question même de la personnalité, où les manuels d'économie soviétique et la doctrine stalinienne et post-stalinienne prétendaient finalement que les changements de structure économique suffisaient à libérer l'humanité. Lui, le Duce, rappelle finalement des éléments fondateurs du marxisme, c'est que le communisme, c'est à la fois un phénomène de production, mais c'est un phénomène de conscience. Et quand on parle de conscience, on parle de toutes les gammes de l'humanité. Donc, il fait des citations sur la haine, entre guillemets, qui peuvent laisser parfois pantois, mais dans ce contexte-là, qui est de résister à la violence qui est subie. Et quand on parle de violence, il faut parler aussi celle de la dictature de Batista, qui était quand même particulièrement cruelle, particulièrement féroce, qui était tellement féroce, d'ailleurs, la dictature de Batista, c'est qu'il y avait des secteurs de la bourgeoisie cubaine qui étaient prêts à se débarrasser de Batista, et que les États-Unis eux-mêmes ont pris contact avec les Barbudos, c'est-à-dire avec Castro et avec le Duce, au début de la guérilla, pour essayer d'envisager une solution négociée de Batista au nouveau régime. Ce qui ne s'est pas fait parce qu'il y avait une volonté politique derrière de la part de Castro, du Duce et de tous les autres. Donc évidemment, il faut le recontextualiser. Et dans l'actualité, la violence, malheureusement, de l'ordre mondial, ça reste là aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir ce qu'on peut puiser dans ce terme-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Et le monde actuel est toujours extrêmement violent. Il n'y a plus les guerres froides, mais il y a des guerres particulièrement chaudes, aussi chaudes que le pétrole en tous les cas. Et visiblement, il y en a d'autres qui s'annoncent.
Sur la violence de cette époque et sur la violence du Duce lui-même, vous ne cachez pas du tout ce qui est reproché au Duce, c'est-à-dire qu'il a tué, il le dit d'ailleurs dans ses carnets, et il a participé, il a été mêlé à un certain nombre d'exécutions. Je reviens encore une fois sur Machover, il y a cette histoire au moment de la prise du pouvoir par Fidel Castro à Cuba, le Duce est à ses côtés, il y a des exécutions à la Havane qui sont connues, qui relèvent maintenant de la connaissance historique, et Fidel est témoin de ces exécutions. Il n'est pas le procureur, comme Jacob Machover le prétend, mais il est témoin de ces exécutions. Il le reconnaîtra. Et par la suite, au cours de ces pérégrinations de guérilleros, il y aura des moments extrêmement violents que vous ne dissimulez pas non plus.
Oui, alors ce que nous disons, c'est d'une part, nous sommes tous les deux, par principe, contre la peine de mort. Donc, nous ne justifions pas les exécutions, ni à La Havane, ni ailleurs, nulle part. Première chose. Bon, deuxième chose, il faut voir les contextes, quand même. Et donc, c'était après la chute de la dictature, ils ont arrêté plusieurs centaines ou plus d'anciens tortionnaires, tueurs de l'armée, de la police, etc. Jugement sommaire, et ils ont été exécutés. Exactement comme à la libération en France avec la milice, les collaborateurs, etc. Sauf qu'en France, ce ne sont pas des centaines, mais des dizaines de milliers qui ont été exécutés. Bon, chose qu'on ne justifie pas non plus, mais enfin, il faut voir les choses dans le contexte. Ensuite, évidemment, le Duce dit, bon, il faut la violence révolutionnaire, justifie, etc. Bon, bien. Mais la haine, bon, il y a des passages qui sont vraiment, on prend aussi un peu nos distances, parce que, bon. Mais, il faut voir aussi un peu sa pratique, qui n'est pas seulement celle de celui qui surveillait les exécutions, etc., mais sa pratique, par exemple, dans la guérilla en Bolivie, si on lit le journal de Bolivie, on voit, par exemple, il prend des prisonniers, des militaires, qui sont des militaires de la dictature bolivienne. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, il leur fait un discours sur les programmes de la révolution. Et après, bon, Il les renvoie. Il dit, bon, mais partez, foutez les camps d'ici, allez expliquer ce qu'on vous a dit à vos compatriotes, etc. Voilà. Et puis, il y a une autre scène que je trouve très émouvante. Il a préparé un guet-apens dans une route où passent des camions avec des militaires. Et il attend des heures, il passe rien. Et à un moment, voilà un camion avec des militaires qui passent. Et ces militaires ont froid, parce qu'il est déjà nuit, il fait froid. Et ils ont mis une couverture sur le dos, comme ça, pour se protéger. Et le Che regarde avec sa mitraillette. Et bon, il peut en faire une bouchée avec sa mitraillette. Et il dit, ces pauvres diables, ils ont froid. Bon. Il dit, j'ai pas eu le courage de les tuer. C'est dans le journal. J'ai pas eu le courage de les tuer. Voilà. Ça, c'est un peu pour casser cette image de...
Des témoignages des deux camps de ce mouvement-là parviennent à chaque fois les mêmes récits. C'est-à-dire qu'il a soigné régulièrement les prisonniers, que c'était donc pas un tortionnaire, parce que personne ne peut prétendre qu'il est torturé, ni un bourreau sanguinaire, puisque lui a toujours non seulement condamné, mais jamais pratiqué toute forme de terrorisme ou d'attentat, et que par ailleurs, en effet, le dilemme, c'est le dilemme des libérations. Alors maintenant, c'est en effet le grand scoop, balourdé comme ça à la va-vite, sur une chaîne de grande écoute. Che Guevara a tué. Grand scoop, oui, Che Guevara a tué. Che Guevara a fait une lutte armée, il a pris les armes avec d'autres pour renverser une dictature. Il l'a pas fait... en écrivant des poèmes, donc c'était aussi une, je veux dire, la réalité d'une lutte armée, que par ailleurs il globalisait pas, il avait pas l'idée que par exemple tout combat révolutionnaire passait nécessairement par la lutte armée. Pour lui c'était toujours en réponse au degré, je dirais, d'agressivité du camp adverse, voilà. Et c'était ça pour lui, la plus grande tâche des révolutionnaires, c'était de mesurer...
C'était de faire la révolution.
C'était de faire la révolution. Et sur la question de la violence, de mesurer la question de la violence en fonction de la violence qu'on a en face. C'était en termes d'autodéfense, j'allais dire, pratiquement, qu'il le posait.
Monsieur Guevara a prononcé une violente diatribe contre la politique américaine.
ONU, Genève, octobre 1964.
Il a dénoncé aussi avec violence la soumission des organisations internationales aux capitalistes et aux impérialistes pour perpétuer le sous-développement dans les pays pauvres. À l'issue de ce discours d'une heure et quart, Monsieur Guevara a bien voulu répondre en français à la question que je lui posais sur les chances de succès que lui et son gouvernement accordaient à la conférence. Écoutez-le.
Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence. C'est l'union de tous les pays en développement et s'ils sont capables, des grands pays développés capitalistes, de comprendre la situation actuelle pour chercher une forme de relation qui permette un développement pacifique.
Alors, est-ce qu'on est en train de parler du passé et de faire une sorte de tribunal de l'histoire improvisé et plus ou moins compétent? Ou bien est-ce que, à vos yeux, à l'un et l'autre, dans la pensée du Che, dans ses hésitations, dans ses affirmations, dans tout ce qu'il fait en si peu de temps, quand même, en 15 ans, il a une vie politique d'une quinzaine d'années, qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui? Voilà, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas encore renoncé, dont vous faites partie, cher Olivier Besancenot, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le Che d'utile, qui peut constituer une boîte à outils, ou au moins du grain à moudre
Du grain à moudre, en effet, pour ce qui pourrait être le projet de société contemporain, avec le bilan de toutes les expériences révolutionnaires. Surtout qu'à la base, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous. La polémique sur le passé, elle est due justement à ce procès qu'on essaie de lui faire. Quand on regarde pas dans le rétroviseur, mais qu'on regarde vers l'avenir, je crois qu'il y a d'abord son internationalisme qui doit rester intact quand on cherche à faire un projet. Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus parlé. Je crois que c'est ce qui parle, contrairement à ce qu'on croit, à beaucoup plus de jeunes qu'on veut bien le dire, notamment dans les quartiers populaires. C'est l'idée qu'on peut pas accepter le monde tel qu'il est au-delà des frontières. Voilà. Et du coup, la réponse à apporter, elle est à cette échelle-là, avec le contexte des guerres dont on parlait, ou même de la Birmanie, de ce qui se passe actuellement en Birmanie. Je veux dire, c'est une leçon de choses. Il y a un peuple qui est en train de se faire massacrer par une dictature militaire, une communauté internationale qui se réunit dans des conseils de sécurité, où figurent certains responsables de l'État français qui, quelques années avant, ont été gracieusement rémunérés. Oui. Pour dire que dire que Total ne faisait pas de la surexploitation, etc., etc.
En
Birmanie. D'abord en Birmanie, d'abord ça, l'internationalisme, et puis deuxièmement, pour moi, enfin à titre individuel, je crois que justement c'est cette question de la personnalité à l'intérieur du projet de société, c'est-à-dire ne pas laisser l'individualité au capitalisme. On dit aujourd'hui c'est le règne de l'individualité, de l'égoïsme du coup. Et on laisse la question de la personnalité au système capitaliste qui prétend être le seul à pouvoir permettre aux individus, finalement, de s'épanouir. Alors, on est dans une société actuellement qui crée des tas de désirs, des tas de demandes, dans tous les domaines, hein, pas simplement en termes de consommation, mais je veux dire en termes social, culturel. Et cette société capitaliste suscite ça, elle est incapable de les satisfaire. Et je pense que là où on attend le mouvement révolutionnaire, le mouvement anticapitaliste, on l'appelle comme on veut, ceux qui veulent rêver d'autre chose, c'est de réintroduire cette idée d'émancipation individuelle dans un projet de société. Et là, c'est dans tous les domaines, culturels, sociaux. Et je crois que le mouvement altermondialiste, à un moment, s'est posé cette question-là. C'est ce qu'on essaie de mettre dans le livre. Et pour moi, c'est une question clé. Il y a évidemment l'idée plus générale de ce qu'a pu écrire Le Che, mais là, Michael en dira sûrement plus long que moi, sur la démocratie, sur
avant
ce qui pourrait être une planification un petit peu démocratique de la société.
On va en venir à la planification et à la démocratie. Moi, je voudrais qu'on reste sur l'individu, puisqu'on a parlé de l'individualité, de l'individualisme, etc. Il avait quand même ce projet de l'homme nouveau. Et ce qui n'est pas nouveau, d'ailleurs. Hein, il n'est pas le premier à avoir un projet de l'homme nouveau. Louise Michel avait un projet, elle rêvait d'un homme futur. Elle avait oublié de parler des femmes, d'ailleurs, elle aussi. Hein. Bon. Mais c'est un petit peu impressionnant, cette histoire d'un homme nouveau. Ça fait un peu... on entend tout de suite surhomme. On voit tout de suite une statue soviétique de 12 mètres de haut avec des bébés en béton qui pèsent des tonnes. C'est un peu impressionnant. Quel était son projet, exactement, Michael?
Écoutez, d'abord, je pense que chaque révolution a son idée de créer un homme nouveau. La Révolution française aussi. Hein. Bon, d'ailleurs, on a commencé un calendrier nouveau à partir de la Révolution. Et il y avait la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'était
le
projet
d'un
homme nouveau, évidemment, qui a des droits et qui est citoyen. Donc, c'est toute révolution à cette idée. Bon. Et pour le Che, bon, qu'est-ce que c'est l'homme nouveau? C'est créer les conditions économiques, sociales, politiques, culturelles, pour que les gens puissent cesser d'être les ennemis les uns des autres, pour que l'être humain puisse ne plus être le loup de l'autre être humain. Bon. Et qu'il y ait des liens de solidarité, d'amour. Bon, l'idée de l'amour, ça revient souvent. Hein, et puis se développer librement. Hein, c'est ça, l'homme nouveau. Ce n'est pas une espèce de décret que le bureau politique dit maintenant, voilà comme vous devez être. Non, c'est simplement créer des conditions pour que les sentiments humains, authentiques, puissent s'épanouir. Hein. C'est un peu ça. Bon, on peut dire que c'est idéaliste, c'est utopique, c'est pas réalisable, etc. Mais bon, c'est ça.
Ce qui revient tout le temps dans son comportement, comme dans ses déclarations, c'est la question de la morale révolutionnaire. Il y a une idée morale, il y a une idée de foi, enfin. Il n'est pas toujours dans le froid constat raisonnable. Il veut quelque chose avec des paris. Il y a un certain nombre de paris chez le Che.
Absolument. Oui. Oui, c'est ça. C'est une pensée qui est très axée sur des aspirations éthiques. Plusieurs fois, elle dit, bon, le communisme, s'il n'y a pas cette dimension morale, ça ne m'intéresse pas. C'est juste un système de répartition économique, ça ne m'intéresse pas. C'est le fond du problème, il est l'éthique. Hein. Et bon, tout sa politique a cette dimension éthique très forte. L'internationalisme aussi, bon, il y a une phrase où il dit, bon, c'est quoi le révolutionnaire authentique? C'est celui qui sent comme une agression personnelle toute agression à une personne dans le monde, où que ce soit dans le monde. Hein. Bon, il y a cet élément de l'éthique, il traverse enfin, toute la pensée et la vie du Che. Hein.
Au début de sa carrière politique, il adhère à l'URSS, aux idées de l'URSS,
oui, bien sûr.
Et puis il va s'en écarter de plus en plus, jusqu'à ce fameux discours d'Alger en 1965, qui va marquer une rupture avec cette option.
Oui, exactement. C'est-à-dire, dans les années 50, avant l'engagement même dans la révolution cubaine, il commence à découvrir le marxisme, le communisme. Bon, ça fait un bloc pour lui. Marx, Staline, l'Union soviétique, ça fait un bloc. Hein. Bon, ensuite, dans la révolution, avec l'expérience de la révolution cubaine, d'une part, et l'expérience de l'ainsi nommé socialisme réel, il commence à avoir des doutes de plus en plus hein, au cours des années 60. Et avant même les discours d'Alger, déjà, il commence à critiquer le modèle soviétique. Hein. Il y a une discussion en 63-64.
Discussion avec Fidel.
Non, pas avec Fidel. Non. Mm-hmm. La discussion, son adversaire, disons, qu'il respecte d'ailleurs, mais son adversaire dans le débat, c'est un débat entre camarades, disons. C'est les gens de l'ancien parti communiste cubain, hein, Carlos Rafael Rodriguez, etc., qui défendaient le modèle soviétique, qui était une espèce de variante du socialisme de marché, disons. Et Leche critique hein, cette position. Il y a un débat public, hein, c'est intéressant, un débat public. Des marxistes connus internationalement viennent et participent dans le débat. Bettelheim contre le Che et Ernest Mandel du côté du Che. Donc, c'est vraiment un débat très intéressant. Et là, on voit déjà ces distancements. Et après, il va en Union soviétique plusieurs reprises et chaque fois, il est déçu. Et il a des débats avec des économistes soviétiques. Et il raconte, en revenant à Cuba, à ses amis du ministère de l'Industrie, je vais vous raconter quelque chose de drôle. J'ai discuté avec des économistes soviétiques et ils ont dit que j'étais trotskiste. J'ai répondu, écoutez, j'ai rien de trotskiste, moi. Simplement, je crois que les idées, il faut les combattre avec d'autres idées et pas par la répression, la matraque, etc. Ça vaut pour les idées de Trotsky aussi. Et peut-être même, il y a quelque chose d'intéressant à trouver chez Trotsky, hein, pourquoi pas. Et il dit, j'ai senti que cette étiquette de trotskiste, pour eux, c'était comme un San Benito. San Benito, c'était, dans l'Inquisition en Espagne, l'habit qu'on mettait aux hérétiques avant de les envoyer au bûcher. Alors il a dit, voilà, c'était un San Benito. Oui. Et voilà comment il a réagi.
La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Tienes quemando la prisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de su sonrisa.
Olivier Besancenot, vous avez annoncé il y a quelque temps le projet de créer un nouveau parti. Et alors on suppose, étant donné la sortie de ce bouquin, on a déjà dit dans une partie de la presse, on a compris la stratégie de Besancenot, il va virer Trotsky, il va mettre le Che à la place, parce que c'est beaucoup plus populaire, on ne connaît plus, il n'y a plus que Mikhaïl Levy qui connaît Trotsky. Donc les jeunes ont le t-shirt, ils en ont partout, donc voilà, on va remplacer l'un par l'autre. C'est ça votre projet, vous êtes démasqué.
Voilà, je suis complètement démasqué. De toute façon, quand le Che, quand il n'est pas un bourreau sanguinaire, c'est simplement parce qu'il est sexy et on évacue toujours le fond du problème, qui est le problème des idées.
Il est sexy, c'est vrai.
Voilà, par ailleurs, peut-être, mais je veux dire, fondamentalement, c'est pas ce qu'on a essayé de faire en, En premier, nous, l'idée, c'est quand on regarde un peu dans le passé, nous, on est pour puiser, notamment quand on cherche à faire un nouveau parti, pas simplement ici, mais qui sera adapté à la période dans laquelle on est, à puiser tout ce qu'on peut trouver de meilleur dans l'ensemble des traditions du mouvement social et du mouvement ouvrier. Il y a la tradition trotskiste, oui, il y a la tradition socialiste, il y a la tradition communiste, il y a sûrement la tradition libertaire, et il y a Che Guevara. En effet, il se trouve que c'est les 40 ans à ce moment-là, et donc oui, la bataille idéologique, elle mérite d'être menée à ce moment-là pour voir ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui. Donc on m'a fait passer de porte-parole trotskiste à porte-parole guévariste. Je suis ni l'un ni l'autre, en fait, parce que je me suis jamais défini moi comme trotskiste, parce que c'est vrai que des staliniens, j'en ai jamais franchement connu, et c'est pas moi qui vais les pleurer. Je suis dans une organisation trotskiste, un héritage, je l'assume complètement, mais je veux dire, le problème, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur dans les uns les autres. Et l'idée que moi j'ai, et je suis pas le seul, parce que c'est quand même le projet de la LCR à ce niveau-là, c'est quand même quand on regarde cette nouvelle période qui s'est ouverte depuis 1989, il y a un cycle qui avait été ouvert par la révolution russe en 1917 qui s'est définitivement refermé en 89, ce qui veut pas dire qu'on efface ce qui s'est passé là, dans ce siècle-là, mais quand on regarde ce siècle-là, il s'agit de comprendre que voilà, on doit refonder, réinventer de nouvelles formules qui vont pas naître que de nos discussions, mais aussi d'expériences un petit peu fondatrices. Et quand on regarde ce siècle-là, il n'y a pas un courant révolutionnaire à lui seul qui peut prétendre avoir fait la synthèse de toutes les expériences du passé. Quel courant peut dire « nous, on a eu raison sur les autres » Alors, il y en a qui diront « on a eu moins tort que d'autres », peut-être. Mais je veux dire, notamment dans les divergences au sein de la gauche anticapitaliste et révolutionnaire à l'échelle de ce qui se passe maintenant, je veux dire, on n'en est plus là. Donc, voilà un peu l'idée. L'idée, c'est d'essayer de voir ce qui peut parler encore aujourd'hui dans le projet du Che. Et là, on en parlait. C'est justement ce phénomène de conscience politique auquel lui appelle et qui est peut-être finalement la clé du succès. Parce que lui, derrière l'homme nouveau, c'est ça qui met. Derrière la morale, c'est ça qui met. C'est la conscience. On agit en conscience. L'humanité n'est pas condamnée à être spectatrice des grands événements qui dévastent tout. Elle peut intervenir, elle peut changer les choses. Et si nous, on arrive à convaincre autour de nous ceux qu'on croise dans les luttes, dans les quartiers, dans les entreprises, que maintenant, l'heure est venue de se représenter soi-même, eh ben, je crois qu'on aura fait un sacré bout de chemin. Et
il y a
de
quelques...
ce point de vue-là, il y a quelque chose qui parle encore. Ouais.
Il y a quelques mots de Marcos, du sous-commandant Marcos, dans votre bouquin. Je rappelle encore le titre, Che Guevara, une braise qui brûle encore. Et dans une très belle lettre, hein, Marcos dit une chose très simple, mais qui est bon parfois de rappeler. « Citoyens du monde, le Che nous rappelle ce que nous savions depuis Spartacus et que parfois nous oublions. L'humanité trouve dans la lutte contre les injustices une marche qui l'élève, qui la rend meilleure et plus humaine. » On est bien d'accord que c'est dans la lutte que les choses se font, c'est pas ce qu'on est en train de faire autour dans un studio avec des micros bien au chaud.
C'est exactement là que ça se passe, et c'est doublement symbolique que Marcos fasse ce texte, d'abord parce que c'est un beau texte, et je crois que ça résume assez bien finalement une des grandes forces du Che, puis au-delà du Che, de tous ceux qui ont cherché dans la lutte à créer quelque chose de neuf, et puis aussi parce que derrière les apatistes en 94, il y a une petite pichenette de l'histoire quand même. Hein. Je veux dire, en 89, le capitalisme est universellement déployé. C'est la fin de l'histoire. On n'a plus le droit de réfléchir. Si on est anticapitaliste, on est condamné à être un stalinien en puissance. On peut être trotskiste, guévariste, libertaire, syndicaliste révolutionnaire, altermondialiste. On est condamné à ça. On est renvoyé à ça. Et puis, il y a un nouveau mur qui se construit, qui est celui de la mondialisation libérale. Et dans ce mur-là, la première brèche, elle apparaît où ? Quelque part, sur les sentiers ouverts par le Che. C'est-à-dire un 1er janvier 94, dans le sud-est du Mexique, au Chiapas, d'une organisation dont l'origine vient du guévarisme, oui. Même si elle est devenue beaucoup plus large, c'est devenu une organisation armée communautaire, évidemment. Mais je veux dire, il y a dans le procès qui est fait aujourd'hui au Che, je pense que ça contribue. Je pense qu'il se passe quelque chose en Amérique latine, et là aussi, là aussi ça devrait interpeller, je pense.
Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, no se pueden dejar intimidar por ello. Y juntos construiremos la nueva vida.
Se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Épopée politique, subversive et romantique. Comment vous résumez en quelques mots le parcours du Che. C'est aussi quelqu'un qui est fauché à la fleur de l'âge, à 39 ans. On peut toujours imaginer ce que le Che serait devenu, aurait fini par penser. Il a peut-être mal vieilli, comme certains.
Certains semblent le dire, mais... ne peut pas parler à sa place. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez appris, Olivier Besancenot, de plus fort en travaillant sur ce...
De plus fort, c'est sûrement la force de l'histoire de l'Amérique latine dont on parlait. C'est-à-dire l'idée que Michael finalement explique, c'est que le Che finalement reprend quelque part, comme d'autres à son titre, le combat même des pères fondateurs du marxisme latino-américain comme Mariátegui, qui parlait justement d'un socialisme un petit peu différent à l'échelle de ce continent. On s'appuie là-dessus, mais Mariátegui expliquait que par exemple, pour être crédible et libérer les peuples et les indigènes là-bas, il fallait que le socialisme soit ni calque ni copie. Pas reproduire. Et c'est le Che, la compréhension du Che par sa propre expérience, c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça que le torchon va commencer d'ailleurs à brûler aussi en partie avec la bureaucratie soviétique à l'époque, au gouvernement cubain, sur des questions économiques, sur des questions de conscience, sur la question de l'homme nouveau, sur la question des rapports de l'URSS au pays du Sud, finalement. D'abord ça, et puis peut-être l'idée qu'on a le droit d'assumer sa part de faiblesse, sa part de doute. Et ça, c'est peut-être ça qui parle aussi à ma génération. Mmh. On n'a pas de réponse sur tout, et j'allais dire, et alors ? Quand même marrant de voir que j'ai quelques détracteurs parfois dans des débats télévisés qui appartiennent à une génération, une partie de la génération 68 qui a pu tourner sa veste, qui probablement avait beaucoup de certitudes au moment des années 70 à célébrer un petit livre rouge. La couleur du livre a probablement changé, mais les certitudes sont toujours là. On célèbre le libéralisme avec les mêmes certitudes. Et on me renvoie en me disant, mais quel est votre modèle ? Eh bien, on n'a pas de modèle. Et est-ce qu'on a le droit d'assumer cette part d'utopie ou pas, tout en étant pragmatique? Et finalement, cette dose de pragmatisme et d'utopie, théoriquement contradictoire, eh bien, on retrouve chez Le Che finalement quelque chose qui n'est pas contradictoire et dans lequel on peut se retrouver.
Oui, c'est très important cette idée que Le Che, ce n'est pas une pensée achevée, ce n'est pas un système, c'est une pensée en mouvement, un mouvement qui était brutalement interrompu par son assassinat. Hein. Donc, on ne prétend pas faire de la pensée du Che un nouveau système théorique, un nouveau marxisme-léninisme. Non, c'était quelqu'un plein d'intuitions, parfois fulgurantes, plein de contradictions, de limites, de doutes, effectivement. Bon, voilà, c'est ça, disons, un être humain révolutionnaire.
Queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ici reste la claire, l'entrañable transparencia de ta très chère presencia, comandante Che Guevara.
L'entrañable transparence. Voilà la traduction
de Miguel Benassayag. Merci à tous, merci à Olivier Besancenot et Michael Lévy. Je rappelle le titre de leur bouquin, Che Guevara, une braise qui brûle encore aux éditions Mille et une nuits. Et puis Charlotte attire votre attention sur un documentaire ce soir sur Arte, Taxi pour l'enfer d'Alex Gibney, qui ouvre une série documentaire consacrée au thème de la démocratie, qui s'interroge sur la pratique de la torture à Abu Ghraib. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam, c'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte, qui s'occupe aussi du répondeur. Elle fait tout, Charlotte, voilà. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.